Alors, bonjour à tous. On va démarrer cet atelier solution autour de l'intrapreneuriat. Donc, on a l'intervention de Kamal Dadi de l'Agence française de développement qui va nous partager son témoignage. Donc, le sujet du jour, c'est l'intrapreneuriat avec une question: comment l'intrapreneuriat peut-il accélérer la transition éco-responsable des organisations? Donc, on vous propose de découper notre intervention. Donc, on est ensemble jusqu'à 13h15 en 5 parties. D'abord, on va rapidement se présenter et puis présenter nos structures respectives. Ensuite, on vous fera une courte introduction sur l'intrapreneuriat et comment est-ce que ça peut être un outil d'innovation à mettre au service de la transformation éco-responsable des entreprises. Kamal présentera le témoignage de l'AFD et donc du programme d'intrapreneuriat qu'il développe depuis 5 ans maintenant. Et on fera un petit topo rapide sur comment se lancer dans ce type de démarche pour ceux qui pourraient potentiellement être intéressés. Et puis on aura 15 minutes de questions-réponses à la fin. Donc simplement un petit rappel avant de commencer, cette conférence elle sera enregistrée, mais simplement l'audio. Donc si vous voulez les slides, il faut venir nous voir à la fin pour nous laisser votre mail pour qu'on puisse vous les transmettre. Donc on a aussi un stand Maobi si vous voulez. Peut-être pour commencer, on va se présenter. Donc, je suis Julia Bertré, je suis la directrice associée en charge de l'innovation responsable chez Maobi. Et donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Kamal. Je te laisse te
présenter. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être là. Merci l'organisation de l'invitation. Donc, je suis Kamal Dadi, je travaille à l'Agence française de développement, qui est une banque publique. Et je pilote l'incubateur de ce groupe. Voilà, mais j'en parlerai peut-être un peu plus largement tout à l'heure. Hop.
Donc, quelques mots sur Maobi pour démarrer. Maobi, on est une agence d'innovation responsable. Notre mission, c'est d'accélérer la transformation éco-responsable des organisations, de la vision jusqu'à l'offre. Donc, pour le faire, on hybride 4 savoir-faire que sont la stratégie RSE et RSM, donc responsabilité sociétale des marques, les études consommateurs, donc on a une expertise spécifique là-dessus. On a un savoir-faire en analyse de cycle de vie et éco-conception. Et enfin, une expérience sur les process d'innovation avec une forte connexion aux écosystèmes innovants, notamment autour de l'impact. Voilà. Et notre lien avec l'entrepreneuriat, donc on a une expérience de plus de 10 ans autour de ces sujets-là dans l'équipe Maobi. On a accompagné plus de 120 entrepreneurs dans des structures de taille très variées, de la PME, donc de 100 personnes, jusqu'à des grands groupes de plusieurs centaines de milliers de personnes, en passant par des ETI, et donc dans des secteurs assez diversifiés, autant la finance, l'immobilier, la construction, l'environnement. Voilà, donc on a un petit peu de retour là-dessus qu'on vous partage avec grand plaisir. Et donc pour l'AFD.
Oui. Alors, je ne sais pas combien... On peut faire un petit sondage. Qui connaît l'AFD ? Ok.
Ben ah, c'est oui. Pas mal.
Ah oui, pas mal. Bon, super. Ah d'accord, ouais, c'est ça, exactement. Super. Ouais. Donc c'est un groupe bancaire, hein. C'est une banque. On appartient à cette communauté de banques bilatérales, dites multilatérales, cette communauté d'acteurs financiers. On a monté d'ailleurs un club qui s'appelle le Finance in Commons. Je ne sais pas si vous connaissez ce club de 550 banques à travers le monde. Donc voilà, pour créer un peu de mobilisation autour de l'agenda 2030-50. Et alors, peut-être pour la petite histoire, si vous connaissez l'AFD, j'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle est vraiment édifiante. C'était un trésor public clandestin. Ça a été créé en 1941. L'AFD, c'est né, s'appelait la Caisse centrale de la France libre. C'était un outil de reconquête de la souveraineté à Paris, donc créé à Londres par le général de Gaulle. Et donc voilà, trésor public clandestin, banque centrale et première, plus ancienne en tout cas, banque de développement dans cette communauté d'acteurs. Voilà, on opère dans 150 pays, un déploiement de 12 milliards d'euros à peu près par an. On a 4000 projets actifs en ce moment. Et puis voilà, il y a 3 entités avec des mandats très différents. L'AFD, donc, on va commencer par le secteur privé Proparco. Donc on finance le secteur privé. Nos clients sont des États, hein, donc voilà. Expertise France, on est plutôt sur de l'appui assistance technique. Et puis l'Agence française de développement fait beaucoup de prêts souverains, en fait, des prêts à des États pour les aider. Donc on est dans l'aide publique au développement. C'est un peu le mandat historique. Voilà, 3500 collaborateurs et on a 80 agences dans le monde. Donc voilà, ça donne une petite, en nutshell, voilà, les caractéristiques du groupe. Peut-être vous dire qu'on opère sur trois référentiels. Donc la loi de programmation relative au développement solidaire, certes, qui a été d'ailleurs promulguée en 2021, mais voilà, depuis peu, le Paris Agreement, on est vraiment au cœur de ce référentiel avec aussi l'agenda 2030. C'est vraiment un peu notre ADN du moment et essayer d'impulser aussi des dynamiques de mise en œuvre en fait de ces agendas qui vont croître dans le paysage, dans notre paysage voilà, tactique et aussi opérationnel. J'ai mis quelques thématiques prégnantes pour nous. Voilà, c'est aussi notre bilan d'impact à date. Ça permet de voir un peu qui nous sommes. Voilà, on ne les développera pas toutes ces thématiques, mais typiquement, on a co-signé pendant la crise du Covid, pour donner un peu de saveur sur la biodiversité, une étude avec la Banque de France et un réseau de banques centrales dans le monde, le NGFS, où on conscientise les dépendances à la nature, typiquement. Donc 65% du PIB mondial dépend de la nature directement, ce qui veut dire qu'il y a des risques systémiques demain. Plus on dégrade la nature, plus on met en risque le fonctionnement de notre économie. Donc ça, c'est une étude qui s'appelle Silent Spring for Financial Systems. C'est une étude qui fait florès en ce moment dans les réseaux et les salons feutrés des banques centrales. où on parle de risques existentiels pour l'humain, pour l'humanité. Donc pour la première fois, on emploie des mots philosophiques dans des lieux qui ne le sont pas du tout. On parle plutôt de chiffres. Donc c'est voilà, on a quand même des très belles inflexions en ce moment dans les lieux les plus, déterminants dans le fonctionnement de l'économie mondiale. On fait beaucoup de mobilisation, beaucoup de sensibilisation. Ce club Finance in Common de 550 banques publiques s'est réuni d'ailleurs il y a quelques jours à Cartagène en Colombie. C'est la 4e édition. On parle à toutes les banques publiques mondiales, toutes les banques publiques de développement, 550, qui se parlent, qui dialoguent, qui essaient d'harmoniser leur vision du monde. C'est 20% de l'investissement mondial. En base annuelle, donc tout confondu, donc le reste c'est du privé plutôt. Et donc l'idée c'est de voir comment cette manne, cette architecture des banques publiques peut réorienter les flux financiers vers l'agenda. Et donc voilà, en créant des logiques de catalyse, etc. Donc c'est un peu ça notre ADN, c'est vraiment, voilà, on est un acteur qui... Et la France a pris un leadership, hein, qu'on le veuille ou pas, on a pris un vrai leadership dans ces logiques de mobilisation et ces thématiques-là.
Alors entrons maintenant dans notre sujet du jour, l'intrapreneuriat au service de la transformation positive des entreprises. Donc peut-être en préambule, j'imagine que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont dans cette démarche de transformation durable, peut-être soit en accompagnant des structures, soit vous-même au sein de vos entreprises. On a deux grands défis dans ces transformations, une d'ordre plutôt humaine. Comment embarquer l'ensemble des collaborateurs dans cette transformation-là, comment apporter des réponses aux collaborateurs qui vont chercher du sens, qui sont particulièrement engagés, qui veulent que les entreprises aillent plus vite. Et puis, des défis de performance durable avec une double nécessité, à la fois de transformer les offres pour répondre aux exigences environnementales et puis aux attentes éco-responsables des consommateurs. Et puis, comment est-ce qu'on transforme les process internes pour vraiment permettre réellement cette transformation durable à tous les étages de l'entreprise. Donc, quel lien avec l'intrapreneuriat, vous allez le voir après. Donc, l'intrapreneuriat, c'est... Qui connaît d'ailleurs l'intrapreneuriat parmi vous, qui a été impliqué de près ou de loin? Ah, pas mal. OK. Donc, je reprends un petit peu les bases pour ceux pour qui ce serait quelque chose de nouveau. Donc, l'intrapreneuriat, si on en donne une définition assez... assez basique, ça consiste à soutenir les collaborateurs porteurs d'une idée innovante à la concrétiser au sein d'une organisation. Donc finalement, c'est un partenariat entre un collaborateur qui va avoir une idée, donc une idée d'innovation qui généralement ne peut pas développer au sein de son poste parce que ça dépasse ses fonctions, parce que dans l'entreprise, il n'y a pas finalement de case pour ce type d'innovation. Donc ça peut être de l'innovation peut-être différente, un peu disruptive, un peu radicale, un peu adjacente au cœur de métier. C'est des idées qui vont venir soit d'une frustration vécue par le collaborateur sur les process internes, d'idées qu'il aurait pu avoir au contact de ses clients potentiels ou d'inspiration externe. Donc ça peut être vraiment tout type d'idées. Les process d'entrepreneuriat sont plus ou moins cadrés, je vais vous l'expliquer juste après. Donc le collaborateur arrive avec l'idée, l'entreprise apporte l'espace de liberté pour permettre de concrétiser ses idées. Donc on va sortir les collaborateurs de leur poste de tous les jours, et on va le sortir aussi des process habituels de l'entreprise pour lui donner vraiment la liberté de creuser, de tester une idée qui peut être intéressante pour l'entreprise. Donc l'entreprise apporte ce cadre un petit peu décentré, et puis les moyens en termes de formation, de temps du collaborateur aussi, et puis budgétaire pour mener à bien l'idée. Et en échange, le collaborateur s'engage à concrétiser cette idée. Donc c'est pas simplement j'apporte une idée à mon entreprise et débrouillez-vous, je mets les mains dans le cambouis et je concrétise l'idée. Donc voilà un petit peu la philosophie de l'entrepreneuriat qui peut prendre ensuite différents types de réalités. Généralement, un programme d'entrepreneuriat ou un accompagnement à l'entrepreneuriat, ça se découpe en 4 grandes phases. Une première phase d'idéation où là, on va récolter toutes les bonnes idées des collaborateurs. Donc ça peut être des phases qui sont très ouvertes pour vraiment essayer de voir qu'est-ce qui frustre aujourd'hui les collaborateurs, quels sont les challenges qu'ils rencontrent, les idées qu'ils peuvent avoir, et de sentir un petit peu, c'est finalement une manière de voir aussi en interne qu'est-ce qui émerge naturellement comme sujet, ou ça peut être vraiment focalisé sur des challenges spécifiques qui peuvent bloquer aujourd'hui votre stratégie de transformation. Donc typiquement, généralement, quand on met en marche une démarche RSE, on a souvent un volet sur imaginer des offres plus durables. On peut focaliser là-dessus pour récolter les bonnes idées de l'ensemble des collaborateurs sur des nouvelles offres qu'on pourrait lancer pour l'entreprise. Voilà, donc c'est à cette première phase d'idéation qui généralement peut prendre la forme d'un challenge ouvert avec une sélection. Ensuite, on a une phase d'incubation. Donc là, on va aider les collaborateurs qui veulent porter des projets d'entrepreneuriat à passer de l'idée à un projet, un concept vraiment construit avec un vrai backup financier qui a été validé sur le marché. Donc on met en place des méthodologies issues de l'entrepreneuriat, beaucoup basées sur le design thinking, le lean startup pour ceux qui connaissent, qui permettent vraiment de être sûr que les idées développées ont un vrai sens d'un point de vue utilisateur, bénéficiaire ou client, ont donc une vraie réalité marché, on va dire, ont un business model, ont un plan de déploiement qui soit clair et ont déjà une première appétence testée sur le marché. Une fois que cette phase est menée, pour les projets que l'entreprise a envie de poursuivre, donc à chaque fois entre les étapes, on a de moins en moins de projets et puis finalement des décideurs qui vont choisir si oui ou non ils ont envie d'investir dans les phases suivantes du projet. Donc généralement là on passe en phase d'accélération, on va commencer à prototyper des premières solutions, à passer du concept à une réalité, un produit réel. Et puis la phase de déploiement, donc j'ai appelé scale, pour vraiment lancer concrètement les nouvelles offres sur le marché. Ou si c'est de l'interne, les nouveaux outils qui vont nous permettre d'accélérer cette transition. Donc voilà un petit peu pour la philosophie. Donc les bénéfices d'un programme d'entrepreneuriat, et vous allez voir le lien avec les défis de la transformation durable, ils sont de deux natures. Il y a des premiers bénéfices autour du capital humain. Donc ça va être des programmes qui vont permettre de motiver vos collaborateurs, de les engager, de développer aussi l'agilité de l'entreprise au sens large. Donc vous allez leur donner finalement l'espace de liberté, les moyens pour quelle que soit leur position dans l'entreprise, pour prendre une idée qu'ils ont, qui leur tienne à cœur, et leur donner les moyens de la concrétiser. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment motivant, notamment pour les salariés demandeurs de sens qui trouvent que les choses vont pas assez vite. Là, on leur dit finalement, soit le changement que tu veux voir dans l'entreprise, on te donne les moyens, Vas-y, on croit en toi, fais-le. Donc ça, c'est vraiment un facteur qui peut énormément motiver les collaborateurs quand on est dans une démarche de transformation durable. Ça permet aussi de stimuler la créativité, d'initier à l'action et de finalement aller récolter toutes les bonnes idées pour accélérer cette transformation. Et puis ça permet aussi de diffuser de manière, capillarisée, une culture d'entrepreneuriat au sein de l'entreprise. Une culture d'entrepreneuriat, ça a quelque chose de très vertueux pour permettre d'accepter plus facilement le changement. Donc on va avoir une culture de la solution, voilà, on va voir chaque problème comme une opportunité, on va être capable de détecter les opportunités un petit peu autour de nous, et finalement ça fait des collaborateurs qui vont être beaucoup plus dans l'acceptation du changement. Et donc diffuser cette culture-là quand on est dans une transformation un petit peu massive des organisations, c'est quelque chose qui est toujours bénéfique. Donc ça, c'est sur le volet capital humain. Sur le volet transformation du core business, ça permet bien évidemment de faire émerger des nouvelles idées, de les concrétiser aussi plus facilement avec des forces vives qui vont être motivées pour le faire parce que c'est des idées qui leur tiennent à cœur. Et donc ça peut permettre d'accélérer à la fois le développement de nouvelles offres ou l'intégration de nouveaux outils en interne qui vont pouvoir accompagner votre transition. Donc vous voyez, ça, c'est un outil qui n'est pas forcément dédié à la transition durable à la base, mais qui peut être très bien sous-tendre ce type de dynamique. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on déploie, enfin nous dans les programmes qu'on déploie aujourd'hui dans les entreprises, parfois il y en a qui ne sont pas forcément axés nativement sur la transformation durable, et on voit qu'en fait aujourd'hui, 90% des idées qui sortent sont liées à ça. Donc c'est vraiment ces sujets-là qui aujourd'hui intéressent les collaborateurs, et c'est là-dessus qu'ils ont envie d'engager leur énergie. Donc on va présenter l'exemple du programme de l'AFD. Donc moi j'ai le plaisir d'accompagner depuis 5 ans,
oui.
Et que Kamal
c'est
pilote.
C'est vrai que tout a commencé, enfin oui, c'est vrai que 5 ans là ça nous renvoie,
oui, c'est ça.
Tout à fait, même 6 ans quasiment. Enfin moi j'ai un background plutôt de capital investisseur, donc avant j'étais vraiment... plutôt le métier banquier, et s'est ouvert cette opportunité de monter une cellule innovation. Alors, j'étais le premier à postuler au sein du groupe AFD à cette cellule innovation qui avait un nom un peu carcéral, mais c'est devenu finalement une cellule souche. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant, parce que ça nous renvoie à une feuille blanche il y a 5-6 ans. On ne savait pas quoi faire en fait. Le DG nous dit vous revenez avec une feuille de route, cellule innovation, très bien, ok, mais on est déjà une nébuleuse à l'AFD. On a l'avantage de couvrir beaucoup de secteurs d'activité, il y a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup de talent au sein de l'AFD, mais c'est une espèce de matrice en silo où personne ne parle à personne, et finalement, on s'asphyxie assez rapidement quand on est sur l'espace de la créativité. Et donc toute l'idée, c'était de se dire comment on ouvre les silos. Et donc je rencontre Julia à l'époque, et donc on partage nos détresses respectives, et enfin la mienne surtout, parce que c'était une détresse existentielle. Je me disais, comment on va impulser un premier pas pour cette cellule innovation. Et en fait, est venue l'idée tout de suite de l'intrapreneuriat, parce qu'on lit beaucoup quand on est en détresse. On se dit, et finalement, l'intrapreneuriat est apparu, donc... C'est un sujet de recherche en management, déjà, l'intrapreneuriat. Donc, quand on tombe dessus, on est content. Et on se dit, pourquoi, depuis 20 ans, aux États-Unis, mais dans d'autres endroits dans le monde, les organisations développent de l'intrapreneuriat? Pourquoi elles font ça? Et donc, on essaie de comprendre, et on rencontre aussi des sociologues des organisations qui voient que l'espérance de vie des organisations est en chute libre. En un siècle, les boîtes, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, passe d'un siècle et demi de vie à 35 ans. Et donc, on est sur des grandes masses statistiques, mais on se rend compte qu'il y a un darwinisme qui est à l'œuvre. Beaucoup de boîtes meurent, beaucoup de boîtes naissent aussi en ce moment. Et donc, les organisations voient bien que les systèmes conventionnels de recherche et développement qu'elles peuvent avoir ne sont pas suffisants. Et donc, l'intrapreneuriat, c'est un sujet de recherche, en management, qui vient en réponse aux limites des dispositifs de R&D conventionnels pour essayer d'aider les organisations à survivre. Parce que ça va pas assez vite. Et tu parlais de vitesse, c'est vraiment ça. Il faut aller vite. La nature tombe en ruine, c'est un fait. La dernière fois, vous donner un exemple. Voilà. Chef de la municipalité de la ville de Ningbo en Chine, plus grand port du monde. Donc c'est un des lieux les plus pollués au monde aussi. Les nappes phréatiques sont inexistantes, enfin, se sont écoulées, enfin, ça ne marche plus. Il y a tout un tissu de boîtes qui est accolé à ce port. Il y a un assèchement des nappes phréatiques. La nature meurt. Les boîtes font faillite. On est au début. Enfin voilà, effondrement local du PIB, du PIB, de ce territoire. Et donc, voilà, les Chinois aujourd'hui se posent la question comment on réaligne la matrice écologique avec la matrice économique. Parce que ça ne marche pas. Et donc, voilà, moi je suis convaincu que l'intrapreneuriat, c'est la prise de conscience du facteur humain. On est tous une ressource écologique au sein des organisations pour réaligner, recréer des forces de réalignement entre les organisations et leurs paysages, leurs process, etc. Donc, c'est. Voilà. Et donc, on s'est dit, et donc le DG était très partant sur cette idée inspirante. On s'est dit, voilà, on va mettre en scène différemment le travail et la culture du travail au sein de l'organisation. Et on va essayer d'attirer les meilleures idées, les talents, et essayer de voir comment on peut accompagner tout cela. Et on en a besoin, parce que ça va être... Enfin, voilà, c'est dur. Le bilan après 5 ans, c'est alors une centaine d'idées reçues. Vraiment, on a de tout. Au début, on accueille tout, en fait. On accueille les bonnes idées purement d'intendance, donc de transfo interne, de conduite du changement, d'amélioration continue, d'innovation métier, de tout, d'augmenter la compétitivité d'un produit, etc. Donc on accueille tout. Et on a retenu 28 projets auxquels on donne la chance. Et ce sont des équipes derrière, on en parlera plus tard, mais voilà, on donne la chance d'idéer, de prototyper, de commencer à esquisser un pilote et de convaincre à chaque jalon de franchissement de jalon technique et managérial les structures de l'organisation pour aller de l'avant. Donc des situations très différentes de l'une à l'autre, et c'est ça qui en fait la richesse. 17 projets implémentés à date. Donc il y a un peu de chute, hein, mais ça fait partie, on voit des projets qui pilotent, des projets qui s'enlisent, des projets qui rebondissent, en fait. Le ratio de genre est excellent, en fait, il est paritaire, donc ça fait plaisir. Je suis papa de deux filles, donc c'est le sens de ma vie. et alors, voilà, une centaine de personnes impliquées, 4 personnes par équipe. Ça c'est super. Enfin, il faut avoir à chaque fois des gens qui sont de champs disciplinaires différents, parce qu'on voit mieux la réalité. Lorsqu'il y a une personne des risques, une personne des opérations, une personne écologue, une personne voilà. Plus on a cet empilement de grilles de lecture, mieux on voit le réel et la réalité qu'on est en train de configurer. Ça c'est un facteur clé de succès. Donc les équipes qui ont bien performé, ce sont des équipes pluridisciplinaires. 68% viennent de 3 directions exécutives, donc ça permet vraiment d'être dans la topique, ce qu'on appelle la topique en innovation. C'est que, en fait, une innovation n'est jamais aussi simple que ce qu'elle donne à entendre. Quand on rentre dans la complexité, on voit qu'il y a un empilement de strates, et il faut vraiment rentrer dans ce détail-là pour mieux voir l'objet qu'on est en train d'adresser. Donc plus on pluridiscipline les équipes, et mieux c'est. Donc notre expérience au début, surpondération de la conduite du changement. Donc au début, la culture, c'était vraiment de donner confiance aux gens. En fait, c'était ça, je te rappelle, la saison 1. C'était vraiment comment, ce qu'on appelle les quick wins. Au début, c'est vraiment donner la chance de créer la confiance initiale. Et voilà, donc c'est de monter un chatbot. Créer des logiques d'efficacité. Alors le chatbot, ça fait des vagues au début. On dit c'est de l'IA qui remplace l'humain, mais en fait ça remplace des tâches ingrates, et en contrepartie l'humain peut faire des formations, et donc il y a une belle il y a aussi une sortie par le haut. Et progressivement, donc les saisons défilantes, on a une surpondération des produits pionniers. Donc on voit des gens qui mettent en scène l'ambition, des talents qui viennent avec des idées un peu plus robustes, parfois interroge le core business de la boîte, et ça nous intéresse. C'est là qu'on sent que c'est intéressant. Parce que la conduite du changement, l'intendance, au bout d'un moment, c'est le secrétariat général qui développe une force de conduite du changement, et on l'accompagne. Voilà, en permanence, c'est des process, en fait. Mais ce qui nous intéressait, c'est la valeur ajoutée. C'est vraiment d'amener les gens doucement vers l'audace. L'audace, et l'inscrire, passer de la culture au process d'accompagnement de l'audace pour avoir des beaux projets. Et enfin, essayer d'institutionnaliser, et on en est là, en ce moment, l'ingénierie qu'on touche du doigt. Alors, au-delà des chiffres, donc clairement, ça a été une respiration. 5 ans, on sent que la culture d'entreprise a respiré. Les collègues nous disent voilà, qu'ils sont... Parfois, on se pose souvent la question, faut-il choisir entre produire ou s'épanouir? Et souvent, quand on est dans... Là, on répond aux deux. Quand on se met en scène avec un risque d'exécution, il y a du jeu. Et d'ailleurs, les neuroscientistes le disent, on est beaucoup plus performant quand on joue, quand le réel est intéressant, plutôt que lorsque on passe beaucoup de temps à faire les mêmes tâches. Donc, sachant que tout est intéressant. Taylor is Fordism, ça aussi, ça aide la boîte aussi à assurer les fondamentaux. Que dire d'autre? Alors, on sent doucement maintenant que notre intrapreneuriat, qui était purement structurel, on a inventé un espace-temps où les gens viennent avec leurs idées, on les sélectionne, on les accompagne, on les accélère, devient de plus en plus un intrapreneuriat contextuel, c'est-à-dire que les métiers identifient les adjacences, c'est-à-dire vraiment leurs sujets frontières, et donc viennent à nous. Parce qu'il y a toujours des pulsions innovaticides dans une organisation. Une organisation se défend. Dès qu'elle voit un objet trop intrus, elle veut l'écarter. Et donc là, on voit de plus en plus les métiers venir à nous pour nous dire, on veut s'attaquer à ce métier, mais il est trop complexe. Et donc on va plutôt l'incuber chez vous, parce qu'il sera protégé. Et donc c'est là qu'on fonde un peu l'utilité d'un incubateur, et que les gens y voient aussi un lieu pour aussi... se tromper, les erreurs fécondes, parce qu'il y a des erreurs fécondes et il faut savoir en tirer un profit au sein de l'organisation. Et c'est ce que j'ai vu aussi, c'est beaucoup d'erreurs fécondes, de pivotement où les gens vont de l'avant et donc. Et ça a beaucoup de valeur pour l'organisation. Que dire d'autre? On arrive, nous, après 4 saisons, à une phase où on est en train de pérenniser le dispositif, c'est-à-dire vraiment lui donner une espèce de vitesse de croisière. Et ça passe par, en ce moment, trois chantiers principaux. Le premier, c'est les RH. Donc, on explique, on fait de la pédagogie auprès des RH en leur disant la génération montante, les aides, ce que nous ne sommes plus, peut-être certains d'entre nous le sont, mais ont besoin de ça pour se projeter durablement dans les organisations. Sinon, elles ont un bug d'alignement, en fait. Moi, elles voient bien qu'il y a une incohérence. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, culturellement, de conscientiser donc les RH et mettre aussi la sanctuarisation du temps, parce qu'une équipe qui travaille sur quelque chose à haute valeur ajoutée pour l'organisation, il faut lui donner les pleins moyens de temps, de budget, etc. Et donc ça nous amène à la direction financière, on va les voir aussi, et on leur explique que pour qu'une organisation puisse se régénérer, pour qu'elle puisse survivre dans son paysage, il faut qu'une portion de la structure de coûts soit allouée à l'innovation, à des processus de régénération de l'organisation. Et donc il faut avoir des budgets, il ne faut pas dire on n'a pas, on ne fait pas. Il faut avoir des budgets, alors pas des budgets infinis, mais des budgets en tout cas qui permettent de franchir des jalons techniques, et d'aider cette culture à devenir vraiment un process banal de l'organisation. Sachant que les récits qui sont portés ne sont pas banals. en quelques mots.
Je vous présente peut-être très rapidement comment le programme d'intrapreneuriat se passe à l'AFD. Donc on a trois grandes phases. La phase d'idéation, qui maintenant se fait sur des challenges très liés à la stratégie, au plan stratégique de l'AFD. Donc on fait un appel à intrapreneurs chaque année. On a des événements d'idéation qui vont permettre aux équipes de se former, à ceux qui ont des idées pas encore très matures, de les approfondir un petit peu. Donc on fait des petits événements comme ça dans les différentes structures de l'AFD. Et ensuite, on accompagne aussi les équipes un petit peu en amont. Il y a un jury de sélection qui a été mis en place, qui est composé de top managers de l'ensemble des divisions du groupe, pour vraiment avoir une représentativité au niveau voilà, transversale, au niveau de l'ensemble des métiers de l'AFD. Ce jury sélectionne un certain nombre de projets qui rentrent en phase d'accélération. Et donc là, ils ont un accompagnement en deux temps. Un premier temps sur, on va les plonger vraiment dans l'exploration de leur marché, des besoins de leurs clients, qu'ils puissent vraiment comprendre, ou de leurs bénéficiaires, parce que l'AFD, ce n'est pas forcément des clients, ou de leurs utilisateurs, si c'est des solutions plutôt internes. Vraiment, essayer de vraiment décoder tout ça, bien comprendre la réalité du besoin, du problème qui sous-tend leur idée, pour designer une solution qui a un sens par rapport à la réalité terrain. Et puis ensuite, on passe dans une phase d'expérimentation où là, ils vont créer un premier prototype, un premier test de leur idée, et puis développer en parallèle un business plan et un plan de déploiement pour savoir où est-ce que l'idée sera, le projet sera hébergé par la suite, quel budget on va avoir besoin pour développer ça, quel montant de ressources humaines, voilà, donc vraiment se projeter dans l'après. Donc il y a un deuxième jury à ce moment-là, composé du même jury que celui de départ, plus un passage devant le COMEX. Donc c'est vraiment le COMEX qui a le choix final sur la poursuite des projets. Donc vous voyez qu'il y a quand même une vraie prise en compte au niveau stratégie de l'entreprise de ces projets-là. Et donc là, on passe en phase d'accélération. Donc chaque projet va présenter son plan de déploiement avec les ressources, un budget qui va être accepté ou non, retravaillé ou pas si besoin. Et puis là, donc, il y a une deuxième phase d'accompagnement qui se met en place, beaucoup plus sur mesure, pour concrétiser ces concepts, finalement, qui restent encore à ce moment-là, au stade de concept, comme des réalités dans l'entreprise. Et donc, pour faire tout ça, l'offre pour les intrapreneurs, elle est multiple. Ils ont à la fois un parcours de formation avec tout un tas de contenus qui va permettre de les accompagner vraiment et de les épauler aux différentes étapes. Ils ont un coaching par des entrepreneurs, donc qui ont déjà créé des entreprises et qui sont capables de les aiguiller, de leur éviter leur éviter de tomber dans les problématiques que rencontrent souvent les intrapreneurs, c'est souvent les mêmes. Ils sont mentorés par un top manager de l'entreprise, et puis ils ont des temps collectifs, donc c'est des cohortes d'entrepreneurs à chaque fois, donc de 6, 10 entrepreneurs. Ils ont des temps de co-développement, ils partagent beaucoup parce qu'il y a aussi ce besoin d'être soudés, de s'entraider qui est très fort, parce qu'on est dans des process où il y a énormément d'incertitudes et qui n'est pas forcément toujours facile à gérer. Et donc en termes de ressources, ils ont un jour par semaine qui est dédié au programme pendant les 6 mois d'accompagnement. Et ils ont également un budget de remplacement pour les remplacer sur leur poste. En tout cas, avoir soit un stagiaire, soit un CDD qui va pouvoir les appuyer sur leur poste de tous les jours pour pouvoir se dégager du temps pour le programme. Je te laisse présenter l'exemple.
Ouais, l'exemple. Ça, c'est un projet qu'on a accompagné en saison 1. Il est super, ce projet. Alors, je ne peux pas dire où il est parce qu'il y a un sujet. Mais voilà, on est sur la gestion durable des forêts. Donc là, on est dans ce cas de figure d'une topic. Donc on est dans une complexité. Souvent dans les banques, on cherche toujours l'efficacité. Donc c'est un peu insupportable. D'un moment, on a envie d'adresser la complexité pour extraire la valeur ajoutée. Et l'atavisme culturel, c'est justement de dire non, là c'est complexe, on met ça de côté. Non, justement, là, l'intrac, enfin l'équipe qui s'est présentée à nous arrive et dit voilà, si demain on veut faire de la gestion durable des forêts, on est dans un contexte actuel où il n'y a jamais eu autant de satellites au-dessus de nos têtes qui collectent beaucoup de données satellitaires de plus en plus précises. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle pour extraire de la connaissance signifiante de ces données et peut-être piloter des politiques publiques, peut-être piloter un secteur privé qui surexploite par exemple une forêt. Donc demain, si on crée un lien, donc l'idée c'était vraiment de travailler tous ces étages-là. Donc on a travaillé avec le CIRAD, qui est un centre de recherche, qui a fabriqué un logiciel. On travaille avec le CNES, le Centre national d'études spatiales. On travaille en dialogue avec les acteurs publics et privés sur un théâtre donné. Voilà. Et on essaye de se dire, voilà, on a une forêt. Il faut, si puissions-nous ponctionner moins que ce qu'elle donne. Et donc être dans une logique de régénération, de... Voilà, voilà. C'est le monde de demain. De toute façon, demain, on sait que nous vivons sur un capital naturel. Il va falloir créer un dialogue entre matrice écologique et matrice économique. Donc comment on peut faire de la MRV, du monitoring, reviewing, verifying, donc c'est vraiment ce processus d'architecture de traitement de la donnée qui va permettre d'inspirer l'action, en tout cas la data-driven approach, comme on dit, pour ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut donner. Donc tout ça, c'est un dialogue, et on descend au niveau même société civile. Donc vous voyez, il y a plein d'étagements de la pensée, d'étagements de la complexité, et on va adresser ça, et on va créer notre prototype, et on va le faire, et là on l'a fait. Et donc ça prend 4-5 ans, c'est complexe, mais c'est le monde de demain. Voilà, si demain on généralise un projet comme celui-ci à tous les biotopes forestiers de la planète, on commence à devenir intelligent à l'endroit de la nature. En tout cas, puisqu'ici on a une ponction qui est notamment liée à l'énergie par le bois. Donc voilà, donc, c'est un prototype. Alors, on est sur 3 pays hein, quand même ici. Donc même si on est sur la responsabilité partagée, ce qui augmente le niveau de complexité du projet. Voilà, et du nudge au niveau de la société civile, des applications, vous voyez cet étagement de la... Voilà, donc ça c'est un projet dont on est vraiment fiers, parce que ça préfigure de... Enfin, je pense une bonne partie des dynamiques de métier de banquier demain, quel que soit, qu'il soit public ou privé. On ne pourra pas se singulariser par rapport à la qualité des capitaux naturels. On ne peut pas, voilà, que ce soit... des nappes phréatiques, que ce soit des forêts, que ce soit un bassin versant, il faudra qu'on conscientise tout ça, qu'on crée des harmonies. Voilà pour ce projet.
Pour finir avant le passage aux questions, pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce type de démarche, donc quel est le process pour se lancer. Donc voilà, il y a quelques étapes qu'il ne faut pas louper pour être sûr que le programme soit opérant. Le premier, c'est de bien définir la finalité, le positionnement. Est-ce que vous voulez viser des innovations plutôt internes, plutôt des innovations d'offres d'un point de vue business, parce que l'accompagnement ne sera pas le même. Est-ce qu'on va viser plutôt des innovations incrémentales, des adjacences ou carrément des innovations disruptives? Donc là aussi, ça change la nature du programme. Quels vont être les terrains de jeu qu'on va vouloir fixer? Quels sont les défis finalement, les points bloquants aujourd'hui dans votre stratégie d'éco-responsabilité sur lesquelles il va falloir focaliser le programme? Est-ce que vous voulez que ce soit un programme qui soit complètement ouvert ou simplement réservé à certains talents? Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qu'il faut commencer à adresser. Ensuite, identifier bien les parties prenantes qu'il va falloir embarquer dans le programme, qui vont être les sponsors. C'est important qu'il y ait un sponsoring très haut placé. Donc vous avez vu pour l'AFD, c'est vraiment le COMEX qui va décider, qui va avoir le choix final. C'est un facteur clé de succès. Les programmes qui ne sont pas vraiment soutenus, souvent, ont du mal à durer dans le temps. Donc ça, c'est vraiment important d'embarquer les bonnes parties prenantes dès la conception. Identifier l'équipe, bien sûr, qui va s'en charger. Et puis ensuite, poser les éléments clés du programme. Quelle va être la gouvernance, le budget, quelle offre on va proposer aux intrapreneurs, hein, parce que finalement, ça va être des clients internes du programme. Commencer à dessiner le programme, quelles vont être les différentes phases, les différents cadencements, les besoins en formation qui vont être proposés. Et puis formaliser un pacte, ça c'est important, entre l'intrapreneur et l'organisation. Donc il se formalise généralement par une charte dans laquelle on va décider quelle est l'implication demandée, le temps dédié, qu'est-ce qui se passe si le projet réussit, quel avenir sont possibles pour l'intrapreneur. En cas d'échec, comment ça se passe? Est-ce que je peux être repris dans mon poste? Donc tous ces sujets-là sont hyper importants à traiter en amont, parce que sinon, ça pose énormément de difficultés. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Donc on a, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on peut prendre quelques questions. Merci. 5 minutes.
C'est ça,
c'est 4. Une question
là-bas. Ok. Ici, il y a une question. Ah, il y a ici. Okay.
On en a 3.
Ouais. Ah, il faut vraiment parler de micro. Capturer.
Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question sur la notion de coalition. Ce matin, ça a été un sujet mentionné en ouverture. Et on sait qu'au bout d'un certain nombre d'éditions, on a envie de faire avec d'autres. Est-ce que c'est un sujet pour vous au sein de l'AFD ?
Je réponds du tac au tac, oui. C'est marrant, je reviens de San Francisco où j'ai rencontré le théoricien de l'innovation ouverte, Henri Chisbrough, qui a théorisé ça il y a 20 ans. Et aujourd'hui, parce qu'on parle d'organisations qui ont une espérance de vie en pleine chute libre, les stratégies de coopération augmentent. Et donc finalement, le next step, c'est vraiment ça. C'est comment on affirme cette ingénierie de la coopération. Et donc comment on est plusieurs acteurs qui divisons un risque d'exécution, qui parcellisons un risque financier ensemble, parce que l'innovation, ça coûte cher. Donc quand ça coûte cher, il faut faire des... Il faut que chacun prenne son risque et vive en communauté pour faire l'exécution vers les dynamiques d'innovation. Donc oui, la prochaine saison est une saison ouverte. Voilà. Donc ça,
on est en train de travailler sur travaille dessus. La conception, justement.
Bonjour et merci beaucoup aussi pour cette présentation vraiment très, très intéressante. Ma question rejoint celle de madame. J'avais noté qu'il y avait eu un appel d'offres justement cette année de la part de l'AFD vers les fondations privées, justement pour travailler en coalition. Mais ma question là, c'était est-ce que les apprentissages que vous avez acquis dans votre cellule d'innovation interne, elle est utilisée en fait par les personnes qui sont en lien avec la société civile et qui financent et cofinancent des projets de la société civile? Aujourd'hui, je travaille pour une ONG qui est cofinancée sur trois conventions programmes par l'AFD. Et donc, je me demandais si en fait tous ces apprentissages, ils arrivaient à revenir en fait vers les projets accompagnés par l'AFD.
Alors... Oui, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, enfin, le Graal, enfin, on en parle beaucoup parce qu'une des jambes de la cellule innovation s'appelle innovation partagée. C'est une architecture de circulation des savoirs. Et donc, l'idée, c'est que tous les tissus nous intéressent, que ce soit les PME, les ONG, les grandes entreprises. On sait qu'il y a des savoirs aujourd'hui qui sont en fabrication, des courbes d'expérience. Et ce qui est important, c'est que ce savoir ne s'enlise pas dans les méandres, voilà, et que qu'il puisse circuler, être convocable en tout point. Déjà au sein de notre organisation, on est dans 85 pays, mais pas que. C'est-à-dire qu'aussi des acteurs de notre paysage puissent aussi se dire finalement, c'est une bonne manière d'adresser un irritant, je sais pas, écologique. Si la solution est bonne, il faut la dupliquer à l'infini. Donc voilà. Et donc, la circulation du savoir, c'est ce qu'il y a de plus critique. La vitesse de circulation, la vélocité. Et donc, voilà, on a une architecture qui cherche son identité encore. Et d'ailleurs, une bonne partie de nos processus, quand on fait de l'innovation, c'est on cherche l'identité qu'on va avoir dans notre organisation, puis après avec nos partenaires. Donc, oui, c'est notre dernière petite jambe start-up au sein de la CI Innovation qui existe depuis 18 mois et qui est en train de faire sa preuve du concept. Mais oui, l'idée, c'est... capitaliser.
Bonjour, deux petites questions. Donc vous avez présenté un exemple. Est-ce que on peut accéder à d'autres exemples, par exemple sur votre site ou pour mieux se rendre compte de l'éventail de ce que vous faites? Et ma deuxième question, c'était donc, effectivement, en sortie d'intrapreneuriat, en gros, si le projet a planté, souvent la personne revient sur son poste. Et si le projet réussit, c'est plus incertain. Enfin, voilà, il y a pas mal de trajectoires possibles. Et qu'est-ce qui s'est fait sur les quatre dernières saisons quand le projet réussit, entre guillemets?
Ok. En effet, on existe depuis 5 ans, et 5 ans, c'est court. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà beaucoup de situations différentes, c'est-à-dire des situations personnelles d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. On a typiquement des intrapreneuses qui ont été affectées à 100% à leur projet, mais qui ont fait des merveilles, des projets qui sont maintenant, qui vivent leur vitesse de croisière. On a des intras qui ont dit « moi, je veux donner de mon temps, 20% de mon temps day to day, mais pendant juste un an ». Donc, Et après, donc, en fait, on gère les différentes situations. Et souvent, voilà, après un an, on a déjà un embryon de projet intéressant. On va chercher les conditions de son implantation dans l'organisation. Et là, on va voir, on va dire, ben, on va faire notre recrutement en interne pour voir où on peut le plugger. Et voilà, on construit un chatbot, on le plug dans l'organisation. Ben, voilà, on se dit, voilà, est-ce qu'on le fait avec les mêmes personnes? Est-ce que d'autres personnes prennent le relais de la maintenance de ce chatbot, etc. Donc, chaque situation est très différente. Mais ce qui est important, c'est l'attention donnée, en fait. L'attention donnée à la... Il faut être nominaliste. Chaque situation est unique. Et donc, on n'est pas dans du pro, voilà, de l'industriel, on est dans l'artisanat. Il faut avoir cette attention. Et sur la deuxième question, on commence à peine à communiquer sur ce qu'on fait, parce que lorsqu'on est tout petit, on a honte de dire ce qu'on fait, parce que c'est toujours insignifiant. Maintenant, on commence à voir des processus qui apparaissent, qui ont l'avantage de générer de l'impact. Et donc, on en est fiers. Donc, on s'est musclé avec une ressource communicante et qui va faire un travail de structuration de l'information pour donner à entendre, à voir, sans surfaire, sans survendre, en disant, voilà, projet, voilà, énergie, gestion durable des forêts, voilà, c'est complexe, on rentre dans le détail. Si on peut généraliser ce projet, le mettre à l'échelle, le dupliquer en 50 points dans le monde demain, c'est super, c'est un super business case. Donc pourquoi pas? Voilà.
Ma question rejoignait un petit peu finalement la première sur les logiques de coopération avec d'autres acteurs, mais peut-être du coup, Maobi, en tant qu'accompagnateur, vous avez déjà des expériences de ce type, soit de programmes de coopération, soit aussi peut-être de solutions qui auraient eu comme bénéficiaire à la fois l'entreprise, mais peut-être aussi d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a des facteurs clés de succès dans ce genre de situation et aussi peut-être des points d'attention? Et après, j'avais une deuxième question aussi. Vous avez pas mal parlé de financement. Effectivement, je pense que c'est un gros point, peut-être à l'AFD ou de manière générale, en général, qui finance? Est-ce qu'il y a un projet, un budget dédié à, bah, s'il y a une structure d'incubateur? Est-ce qu'il y a aussi une participation peut-être des métiers qui vont être impactés par les solutions? Donc...
Alors, je vais répondre à la deuxième question, puis après, je vais peut-être demander une reclarification de la première. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien compris. Ok, ça marche. Donc, sur la question des budgets, effectivement, c'est toujours un sujet. Généralement, ce qui se fait, c'est que déjà, il y a des budgets, en tout cas, c'est nous ce qu'on préconise, différenciés entre l'accompagnement des projets et le budget de la cellule d'innovation, du programme d'entrepreneuriat, pour vraiment que les projets aient une enveloppe, finalement, dédiée. Alors, ce qui se fait parfois, c'est que, par exemple, on a une enveloppe, disons, 100 000 euros pour 10 projets, et à eux de se répartir entre le projet et de finalement convaincre le COMEX d'avoir tel ou tel budget, mais dans une enveloppe qui va être contrainte. Voilà. Et c'était ça. Je réponds bien à ta question ou... Et puis, ah oui, il y avait un pan sur est-ce que ça vient du top ou des entités.
Ouais.
Oui. Alors, généralement, ce qui se fait, c'est que dans la première étape plutôt d'incubation, c'est souvent pris au niveau des holdings, enfin, en tout cas du central, on va dire. Et ensuite, plus le projet est incubé dans des entités spécifiques, etc., plus il y a un copartage du financement et donc du risque. Donc, généralement, c'est bien qu'il reste un soutien quand même, parce que sinon, on a un moment où l'entité opérationnelle, comme on est encore sur des choses un peu risquées, exploratoires, etc., ne veut pas s'engager totalement. Mais il faut quand même qu'elle ait un peu du skin in the game, comme on dit, pour que derrière, la sauce puisse prendre quand le projet est hébergé au sein d'une entité. Après, si c'est des projets qui sont un petit peu disruptifs et qui sont des nouvelles entités créées, là, ça peut être une enveloppe budgétaire complètement décentralisée parce qu'en fait, ce projet est trop différent pour être hébergé dans une structure existante. Donc, ça va dépendre aussi pour rejoindre la question de la finalité des projets, de comment les choses vont se matérialiser ensuite dans la réalité de l'entreprise. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Pour l'AFD, en fait, sur la manière dont on procède, mais on a beaucoup pivoté, c'est-à-dire que, encore une fois, on cherche à chaque fois notre identité dans ces ingénieries. Et donc, au début, on se dit qu'il faut absolument qu'on sanctuarise un budget, mais en fait, on se rend compte que chaque projet amène de l'incertitude au fur et à mesure qu'on avance dans son élaboration. Et donc finalement, on éduque aussi un peu le COMEX et les membres du COMEX à tisser des liens entre l'incertitude et la décision. Et donc ça, c'est important. C'est important de montrer que bah, des fois, on a besoin de gros montants, des fois on a de petits montants. Et voilà. Et donc c'est bien de faire ce travail de, voilà, de lever de fonds en interne, au plus près du projet, parce que c'est ce qui donne aussi la confiance partagée entre le COMEX, la ligne de management intermédiaire, parce qu'ils sont importants, il faut les avoir avec nous, sinon rien ne se fait. Et voilà. Mais voilà. Au début, on est un peu clandestin quand on fait de l'innovation, ça c'est sûr. À un moment, on commence à toucher à de la liberté conditionnelle, et à un moment, voilà. Donc c'est un peu Javert et Jean Valjean. Et puis à la fin, voilà. Les gens voilà. Comprennent en fait. Comprennent ce qu'on fait.
Bonjour. Quelle est votre position sur le recrutement externe d'entrepreneurs? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà testé? Quels sont les résultats? Quels sont les pour les contre par rapport à une mobilité interne?
Ouais, bonne question. En fait,
on en a un.
C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a le côté tout ou rien. Et en fait, encore une fois, les situations sont très différentes d'une personne à l'autre. Et on est souvent face à des talents qui disent, voilà, moi je veux allouer 80% de mon temps, sauf qu'il appartient à une entité qui a besoin de lui. Et donc, on est toujours dans cette pédagogie où il faut faire la preuve du concept avec 20% de temps uniquement, au début, dans les premières phases. Et puis, si vraiment le projet sort et clôt, on passe de toute façon en COMEX. On demande, c'est un franchissement de jalon managérial. Donc, s'il faut allouer une ressource, et ça a été le cas pour un projet qui s'appelle Métis, qui est une fondation artistique qu'on a montée avec une intrapreneuse, ben voilà, maintenant elle est complètement dédiée. Elle était ingénieure agro et là elle a monté une fondation artistique. Donc une forme d'agriculture aussi, mais voilà, elle est complètement dédiée maintenant à son projet artistique. Et elle illumine le groupe, voilà, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout mis dans notre offre. Voilà, groupe, et aujourd'hui elle a une vraie fonction. Mais voilà, on aime bien la gradation progressive. Et puis après, s'il faut prendre une décision, voilà, le COMEX, généralement, ils aiment bien décider. Donc, il faut arriver avec des choses un peu bien tranchées. Et si vraiment le projet est vraiment prégnant, qui commence à donner les pleins effets de sa valeur, généralement, il y a une décision RH qui suit. Hein. Donc, mais voilà, encore une fois, ce sont à chaque fois des situations uniques. Et des fois, on arrive à fabriquer de l'innovation aussi en allouant 20% de temps des uns et des autres. Donc, une équipe de 5-6 personnes qui mettent 20% de leur temps. C'est déjà beaucoup, 20%. Et c'est bien la contrainte, parce que souvent, c'est dans la contrainte aussi qu'on dynamise l'envie d'aboutir à un projet. Quand on donne trop de temps au début, on a le vertige inverse, c'est-à-dire qu'on se dit, oh, mais en fait, c'est trop compliqué. Donc souvent, la contrainte aussi aide les intras à mieux aboutir leur prototype. Voilà. Donc voilà, mais c'est très dur de donner une réponse.
J'ai peut-être compris ta question différemment, mais tu me diras. Moi, parce que dans certaines entreprises, parfois, il y a la volonté ils identifient des sujets d'innovation, et plutôt que de les proposer simplement aux intrapreneurs en interne, ils vont aller recruter des entrepreneurs pour travailler sur ces projets-là. C'est de ça que tu parlais, peut-être ? Voilà. OK. Oui, c'est... Parce qu'il y a aussi le sujet, effectivement, des équipes d'intrapreneurs qui nous disent « Ah, mais nous, on n'a pas le temps, en fait, donc est-ce qu'on peut avoir des consultants ?» Ça arrive souvent à l'AFD, cette question-là. Et dans ce cas-là, nous, on dit plutôt non, parce qu'on trouve que c'est important que ce soit eux qui fassent. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Mais alors, pour répondre à ta question, donc, sur les entrepreneurs externes, ça dépend vraiment, et donc, si je reviens à mon dernier slide, de la finalité du programme. En fait, il y a des programmes d'entrepreneuriat qui vont être faits d'abord et avant tout pour transformer la culture de l'entreprise, pour la rendre plus agile, pour apporter des réponses au capital humain. Et dans ce cas-là, le focus, c'est sur les intrapreneurs internes. C'est moins sur est-ce que l'idée, finalement, va aller au bout de sa réalisation. Ce qu'on cherche avant tout, c'est à acculturer l'entreprise à des nouvelles manières de faire et donner à chacun la possibilité d'aller au bout de ses idées. si le programme, il a vocation avant tout à générer de nouvelles offres innovantes, des nouveaux projets, à accélérer l'innovation de l'entreprise et qui est moins axé sur la culture. Dans ce cas-là, ça arrive, si on n'a pas forcément les bonnes personnes en interne, d'aller chercher des entrepreneurs externes. Mais ça dépend vraiment de l'objectif en fait, final et de l'objectif principal du programme. Et donc ça peut se faire. Moi, il y a des programmes que je gère où effectivement, on a les deux. En fait, on a un programme d'entrepreneuriat et un programme qu'on a appelé d'entrepreneuriat, où là, on va aller chercher des entrepreneurs externes pour développer des nouvelles offres.
Bonne question.
Alors d'abord sur la phase d'idéation, avec l'AFD par exemple, mais c'est assez commun, on définit des challenges d'innovation qui sont très en lien avec la stratégie de l'entreprise, que généralement on écrit avec les COMEX ou en tout cas avec les différentes divisions pour s'assurer que effectivement les idées qu'on reçoit sont en lien avec les challenges stratégiques de l'entreprise. Donc on va avoir des challenges qui sont assez ouverts quand même pour pas trop couper la créativité des gens, mais quand même assez fermé pour pas non plus avoir j'ai envie d'ouvrir une boulangerie ou voilà des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'essaimage, parce qu'il y a souvent des entrepreneurs qui m'ont aussi arrivé pour créer leurs propres envies d'entrepreneuriat qui peuvent être parfois décorrélées de ce que l'entreprise peut avoir envie de développer. Donc on a cette phase vraiment de design des challenges en amont qui est assez importante, il faut que ce soit bien fait. Et ensuite, dans la sélection du projet, donc on va mettre en place une manière de candidater qui va déjà permettre de cadrer les projets. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est deux étapes, parce que ce qui est important, c'est de sélectionner des projets, mais aussi de sélectionner des entrepreneurs, donc des profils. Et on voit que souvent le succès des projets, c'est avant tout les hommes, leur capacité d'écoute, leur capacité à pivoter, leur motivation, et c'est plutôt ça que l'idée qui va être priorisée. Donc juste pour répondre, donc on fait souvent un premier dossier avec des questions sur quel est le problème ciblé, qu'est-ce que vous voulez développer, voilà, quelques questions comme ça type qui vont nous permettre nous de bien cerner le projet, aussi de voir quel est le degré de travail qu'a eu l'entrepreneur en amont. On va avoir des échanges avec lui pour raffiner l'idée, pour l'aider, pour le coacher. Avec l'AFD, par exemple, on met en place des petits événements le midi pour travailler encore plus les idées, pour les pousser un peu plus, donc en format un petit peu hackathon. Ça va permettre aussi potentiellement de compléter les équipes s'il manque des compétences. Et puis ensuite, on a des entretiens de sélection qui vont nous permettre d'évaluer aussi d'un point de vue humain si les personnes sont faites pour ça et vont être capables d'aller au bout. Donc c'est comme ça qu'on arrive à raffiner un petit peu les choses. Donc on n'a pas 100% de succès, des fois on se rate, hein. Mais bon, ça permet en tout cas de cadrer un petit peu plus.
Mais vraiment, les équipes sont plus importantes que les idées. Parce qu'une équipe qui affiche une bonne cohésion, en fait, va se battre pour pivoter, chercher, trouver la solution. Il y a une culture sociale embarquée dans l'équipe qui va être robuste, surtout s'ils ont des champs disciplinaires différents. Donc ils vont arriver à vraiment faire un travail panoptique sur le projet ou l'objet d'innovation poursuivi. Et donc nous, on mise vachement sur la qualité de l'équipe. Même si l'idée est parfois pas très convaincante ou floue, si l'équipe est bonne, on sait qu'ils vont atterrir. C'est contre-intuitif, mais voilà. Et parfois, on a une super idée portée par une personne, un peu en solo, et on se dit seul. Enfin, l'idée, elle est bonne, elle est convaincante, mais seul, voilà, il a besoin. Alors, on va lui insinuer qu'il faut aller voir, avoir un allié au risque, un allié climatologue, je sais pas que sais-je. Et donc là, on va essayer de faire un peu de la chasse de tête en interne du mentoring et voilà, voir comment on peut l'aider en fait à, parce qu'on est convaincu que les intras, enfin, les gens qui amènent des bonnes idées au sein d'une organisation font un cadeau, font un cadeau. Donc on est toujours très accueillant, on trouve ça toujours très bien, hein, et donc on essaye à chaque fois de voir comment on peut canaliser pour que ça se passe bien. Voilà. Donc,
Merci beaucoup.
Merci.